Notre religion n'est pas une doctrine ou une idéologie ou une école de morale. C'est quelqu'un. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le Verbe incarné. Et c'est la vie de Jésus-Christ qui doit être la source de notre vie, qui doit être l'exemplaire, qui doit être l'exemple de notre vie. La contemplation de la vie de Jésus est la source de la vie chrétienne et personne ne peut trouver d'autre fondement que la vie de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le fondement de notre vie, qui est le fondement de notre vertu, qui est le fondement de notre sainteté. Alors il nous faut connaître la vie de Jésus-Christ. Mais connaître la vie de Jésus-Christ ne demande pas seulement de lire l'Évangile, il faut lire l'Évangile bien sûr. Il ne demande pas seulement de connaître les événements de la vie de Jésus-Christ, et vous connaissez les événements de la vie de Jésus-Christ, je suppose, mais il faut surtout pénétrer ces événements. Ne pas se contenter d'en avoir une vue extérieure, telle qu'on peut le lire dans les vies de Jésus, telle qu'on peut en avoir une idée, même en imaginant les choses qui ont pu se passer. Il faut aller au centre de ces mystères. Bien comprendre que la vie de Jésus-Christ est la vie du Verbe incarné parmi nous. Et de même que le Verbe incarné était caché en Jésus-Christ, c'est-à-dire que la divinité de Jésus-Christ n'apparaissait pas immédiatement dans son visage humain, et devient de même pour nous. De même pour nous, les événements de l'Évangile risquent de nous frapper par leur beauté, par leur douceur, par leur grandeur également, mais nous risquons de passer à côté de l'essentiel. Bien souvent, on regarde la vie de Jésus-Christ d'une manière trop humaine, d'une manière trop naturelle, un peu comme on lirait la vie d'un grand saint, ou la vie d'un grand prophète, ou la vie d'un grand maître. Alors c'est tout autre chose. Et je voudrais aujourd'hui simplement, présupposant que vous connaissez déjà la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment cet exposé ne s'adresserait pas à des personnes qui n'auraient jamais lu l'Évangile, mais présupposant que vous connaissez déjà les événements de la vie de Jésus-Christ, eh bien je voudrais vous en faire pénétrer le centre du mystère, vous en faire pénétrer la vie intérieure. Comprendre que derrière, par-delà les apparences, par-delà ce que l'histoire peut nous rapporter, eh bien, il y a un mystère sacré, un peu comme dans un sacrement, voyez-vous. Ce que voit un profane dans l'Eucharistie, c'est un morceau de pain. Ce que voit l'homme de foi, c'est le corps du Christ. Eh bien, de la même manière, un historien, un philosophe des religions, peut lire l'Évangile. Il peut connaître les événements, il peut, je dirais même, connaître l'Évangile par cœur. C'est une question d'étude et de travail. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est pénétrer au centre de l'Évangile. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous en examinant de manière théologique, à la suite de saint Thomas d'Aquin, les différents événements de la vie de Jésus-Christ. Je commencerai, simplement parce qu'il faut quand même se limiter, je commencerai à sa naissance à Bethléem. Oh, sans doute, ce serait très intéressant également de parler de la vie de Jésus-Christ et de la vie de Notre-Dame avant Noël, avant la fête de Noël. Il faut quand même limiter notre sujet. Alors considérons bien les circonstances de la nativité. Comment le Christ est né à Bethléem? Comment sont disposés les événements de la naissance de Jésus? Eh bien, vous constaterez que les événements de la naissance de Jésus ont été parfaitement ordonnés par la Providence. Sa naissance à Bethléem n'est pas le fait du hasard. Bien sûr, c'est Dieu qui conduit les événements de l'histoire, et c'est donc Dieu qui a fait que il y ait eu à ce moment-là un recensement qui a conduit Marie et Joseph à Bethléem. Eh bien, en effet, cette ville de Bethléem est parfaitement bien choisie, parce que c'est la cité de David, c'est la cité de l'ancêtre de notre Seigneur, c'est la ville de la figure du Christ. Il y a des personnages de l'Ancien Testament qui sont l'annonce et la figure du Christ. Et parmi ces figures, il y a le roi prophète David. Le roi prophète David. Le roi prophète David représente déjà à l'avance, dans l'Ancien Testament, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut noter aussi que le choix de Bethléem manifeste éminemment la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Car en effet, Bethléem était une petite ville très humble, inférieure. Eh bien, notre Seigneur, au cours de sa vie, monte en quelque sorte de Bethléem, qui est la petite ville de province, jusqu'à Jérusalem, qui est la capitale. Et c'est à Jérusalem qu'il va consommer son sacrifice. On peut ajouter que Jérusalem, donc, c'est la ville du roi, c'est la ville du prêtre, la ville du sacerdoce, c'est là où notre Seigneur fonde sa royauté et son sacerdoce, c'est là qu'il tient l'origine de... qu'il exerce son sacerdoce par son sacrifice de la croix, et c'est là qu'il fonde son royaume. Et plus encore, on peut dire que notre Seigneur monte de manière mystique jusqu'à Rome en signe de sa parfaite victoire. La parfaite victoire du Christ, elle est à Rome, elle n'est pas à Jérusalem. La victoire est fondée à Rome sur la croix, à Jérusalem sur la croix, mais le règne du Christ s'établit à Rome. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas monté à Rome, il y est monté en lui-même, mais il y est monté par son Église. Eh bien, Dieu n'a pas choisi pour faire naître notre Seigneur Jésus-Christ Jérusalem, capitale religieuse. Il n'a pas choisi Rome, la capitale politique du monde. Il a choisi une petite ville. Et c'est seulement au fur et à mesure de la montée de notre Seigneur qu'il arrive à Jérusalem et qu'il arrive de manière mystique à Rome, puisque c'est à Rome qu'il fonde l'Église. On peut noter également que les circonstances de temps sont parfaitement bien vues, bien prévues. Notre Seigneur Jésus-Christ naît à un moment où le peuple juif est esclave. Esclave, n'exagérons pas, les juifs ne sont pas des esclaves, mais le peuple juif a perdu son indépendance, il est sous la domination romaine, n'est-ce pas? Eh bien, de fait, notre Seigneur Jésus-Christ vient nous délivrer de l'esclavage du démon. Donc il naît à un moment donné où le peuple juif est sous la domination d'un étranger, comme nous aussi, nous sommes sous la domination du diable. Il naît également à une époque où règne, toute proportion gardée bien sûr, une paix et une unité universelle. En effet, à cette époque, tout le bassin méditerranéen est sous la domination de l'Empire romain, ce qui, moyennant les inévitables difficultés inhérentes à toute réalité humaine, ce qui donne au monde civilisé l'unité et la paix, l'unité politique. On peut dire que tout est sous l'unité de l'Europe et sous l'unité politique de l'Empire romain et jouit d'une certaine paix politique, en signe de la paix et de l'unité que le Christ vient apporter. Le Christ vient apporter la vraie paix et la véritable unité, et en signe de cette paix et de cette unité, il y a déjà une certaine unité politique et une certaine paix qui est réalisée par l'Empire romain. Et enfin, on peut même voir comment les circonstances, je dirais même astronomiques, sont parfaitement bien étudiées, puisque c'est à peu près à ce moment-là que la lumière du jour commence à croître. La durée des jours diminue en hiver, approche de l'hiver, et puis à un moment donné, elle commence à croître, et ça correspond à peu près au 25 décembre. C'est le moment où les hommes commencent à croître dans la lumière. Comme le dit l'Évangile selon saint Luc, le Benedictus, le cantique de Zacharie, Illuminareis, qui in tenebris et in umbra mortis sedent. Il est venu illuminer ceux qui sont dans les ténèbres et qui se tiennent dans les ombres de la mort. Notre Seigneur donc naît au moment aussi où l'univers est en train d'être l'univers habité, l'univers, disons, qui est sous la domination de l'Empire romain, est soumis à un recensement, alors que lui-même vient recenser, en quelque sorte, ses élus. Voilà comment sont établies les circonstances de la nativité de Jésus. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien laissé au hasard, c'est comme si Dieu était un artiste et peignait dans l'histoire du monde les événements du Christ. Puis viennent enfin les circonstances de la nativité étant établies, viennent d'une suite d'événements que vous connaissez bien. L'adoration des bergers, l'adoration des mages, la présentation de l'enfant Jésus au temple. Et bien là encore, ces événements sont tout à fait ordonnés. Mais alors pour le comprendre, il faut bien saisir que tous les événements du monde sont ordonnés par Dieu, que tout est prévu par Dieu pour son Christ. Ainsi donc, il y a quatre principes qui nous permettent de saisir l'essentiel des événements de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, le Christ assume toute la nature humaine, la totalité de la nature humaine, avec ses perfections et ses infirmités, sauf le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas pécheur, mais il assume la mort et la souffrance. Il assume, je dirais, toute la condition humaine. Eh bien, nous allons voir dans la suite des événements comment notre Seigneur Jésus-Christ assume toute la condition des hommes. Le Christ est tête du corps mystique, il est tête de l'Église. Et par conséquent, il est l'exemplaire de la vie de l'Église. Donc, tous les événements de la vie de Jésus-Christ ont une résonance dans la vie de l'Église. On peut trouver dans la vie du Christ les principes de la vie de l'Église. Les événements fondamentaux de la vie de l'Église, les réalités fondamentales de l'Église, nous le verrons plus tard en détail, sont présents dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, les événements de la vie du Christ sont bien sûr strictement historiques. Il n'est pas question ici de refuser la vérité historique des évangiles. Les évangiles nous racontent véritablement les événements qui ont eu lieu. Mais il ne faut pas oublier que ces événements sont aussi symboliques. C'est-à-dire que tous les événements de la vie du Christ sont les symboles des réalités du royaume de Dieu. Ce sont les symboles des réalités mystiques qui se vivent dans l'Église. Les événements de la vie du Christ sont à la fois historiques et symboliques. Prenons par exemple, et pour commencer, la manifestation de cette nativité de Jésus-Christ. Vous constaterez que la nativité de notre Seigneur est relativement secrète. Relativement. Elle est révélée, mais à qui est-elle révélée? Elle est révélée aux bergers et aux mages. Un point, c'est tout. Vous constaterez que cette nativité n'est pas tenue absolument secrète, non, mais elle n'est pas non plus révélée à l'univers entier. Or, Dieu aurait très bien pu révéler la naissance du Christ à l'univers entier. Il était tout à fait possible que Dieu fasse un grand miracle. Dieu aurait très bien pu faire un grand miracle qui révélait la venue du Christ. Non. Il n'y a pas de grand miracle universel. Pourquoi ne pas révéler la venue du Christ, par exemple, à l'empereur romain, voyez-vous, ou au grand de ce monde? Non, rien. À l'univers entier, non, pas du tout. C'est relativement discret, relativement secret. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'il faut que la réalité de l'incarnation soit manifestée. Or, pour cela, s'il y avait eu un miracle vraiment éclatant et universel, l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ aurait été voilée. Il fallait que notre Seigneur Jésus-Christ naisse vraiment comme un homme, comme nous. Et il ne convenait pas alors qu'il y eût une manifestation éclatante. Il fallait qu'il y ait une discrétion. Oui. Une manifestation universelle de la naissance de Jésus-Christ aurait caché son humanité. Elle aurait donné l'impression que son humanité était une illusion et que ce n'était pas un véritable enfant d'homme qui était né, mais que c'était une apparence. Eh bien, pour que l'incarnation soit bien fondée dans nos esprits, que nous comprenions bien, pour que les hommes voient bien qu'il s'agit d'un homme comme les autres, il ne convient pas que sa naissance soit manifestée de manière extraordinaire. Il y a les anges qui apparaissent aux bergers, les bergers n'étaient pas très nombreux tout de même, et puis les quelques mages qui reçoivent un message relativement discret également, puisque eux-mêmes ont été inspirés pour comprendre que l'étoile signifiait la naissance du Sauveur, mais ils ont été les seuls à le comprendre, les seuls à le voir. Donc c'était aussi relativement discret. Vous remarquerez donc que Dieu a fait un choix. Dieu a fait un choix, il a choisi certains hommes pour leur révéler la naissance de Jésus-Christ. Un point, c'est tout. Et pour les autres, cette naissance demeure cachée. Eh bien, je vous disais que les événements de la vie de Jésus-Christ sont les symboles de la vie de l'Église. Eh bien, il en est de même, remarquez bien, de la vérité de l'Église. Nous pourrions à certains moments nous dire, mais enfin, pourquoi Dieu ne fait-il pas un grand miracle qui permettrait que tout le monde ait la foi tout de suite? Ce serait magnifique. Qu'il y ait un miracle éclatant qui prouve la vérité de l'Église. Ça nous soulagerait bien, surtout aujourd'hui. Eh bien non. Non. Eh bien non, non, pas du tout, absolument pas. Pas de miracle universel, mais l'obscurité et le secret. Il y a à la fois l'obscurité et la clarté. Il y a quand même une certaine clarté, comme il y a eu une certaine révélation aux bergers et aux mages. Donc il y a quelques miracles dans l'Église quand même. Hein? Mais les choses sont relativement discrètes. Et la plupart des gens ne les voient pas. La plupart des gens ne veulent pas les voir. Le mystère de l'Église doit se révéler petit à petit, selon les conditions humaines, les conditions de lieu et de temps, à travers les victoires et à travers les défaites. Telle est la vie de l'Église. Vous voyez ce mystère, ce mélange de secrets, de mystères et en même temps de miracles. Oui, il y a un certain éclat de l'Église, mais relativement discret. Pour ceux qui savent voir, oui, ceux qui savent voir voient la sainteté de l'Église. Mais pour ceux qui ne savent pas voir, la sainteté de l'Église est incompréhensible et invisible, voyez-vous. Il y a ce mélange de secrets et de clarté, de mystères et de lumière. Voyez. Eh bien, ceci est vrai dans la vie de l'Église, ceci est vrai pour la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ça nous explique bien quelle doit être comment concevoir la vie de l'Église et notre vie aujourd'hui. Donc une manifestation, mais relativement secrète et discrète. Après cette manifestation de la naissance, Marie et Joseph et l'enfant Jésus restent à Bethléem et puis ils se rendent à Jérusalem au bout de 40 jours pour le présenter l'enfant Jésus au temple. Bon, vous savez ce que représentait cette cérémonie de purification et d'offrande du premier-né. Tous les enfants premiers-nés devaient être offerts au temple de Jérusalem. On peut rattacher également à cet événement de la purification de notre Seigneur, la purification de Marie, pardon, la circoncision, 8 jours après. Notre Seigneur Jésus-Christ est circoncis, et puis ensuite il est présenté au temple. Alors vous notez bien sûr que d'une part, la circoncision était totalement inutile pour le Christ, puisque la circoncision avait été établie pour délivrer, comme signe de délivrance du péché originel, ce qui n'a pas lieu d'être pour le Christ, bien sûr. Et la purification de la Sainte Vierge était également totalement inutile, puisque Notre-Dame était vierge. Et enfin, il n'y avait pas de raison que notre Seigneur Jésus-Christ fût présenté au temple, puisque de toute façon, il était consacré à Dieu de toute éternité. Eh bien, néanmoins, le Christ avec Notre-Dame, ont voulu assumer toutes les lois juives qui les concernaient. Pourquoi? Eh bien, parce qu'avec sa mère, il a voulu assumer ce qu'il sauve. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sauver la nature humaine, il assume les conditions de vie de la nature humaine, et par conséquent, la loi de l'Ancien Testament. Il assume en lui-même la loi de l'Ancien Testament, et assumant ainsi en lui-même la loi de l'Ancien Testament, il peut la transformer dans la nouvelle loi. Ceci est vrai de toute la vie de notre Seigneur, mais plus particulièrement de l'observance légale du Christ. Le Christ observe les lois de l'Ancien Testament. Le Christ observe les lois de l'Ancien Testament parce qu'il veut assumer toute la condition humaine qui est soumise à ce moment-là aux lois de l'Ancien Testament. Et il veut pouvoir transformer ces lois de l'Ancien Testament dans les lois du Nouveau Testament. Mais pour transformer les lois de l'Ancien Testament, il doit d'abord les prendre sur lui-même. Par conséquent, il assume la vérité de la nature humaine et son origine. Il assume les conséquences du péché. Il n'assume pas le péché, mais il assume les conséquences du péché, la souffrance et la mort. Et il assume, en l'occurrence, la circoncision et la présentation au temple. Donc, tous ces événements de notre Seigneur peuvent être résumés en ceci. Le Christ assume cette condition humaine, il assume l'ancienne loi, il assume la loi de l'Ancien Testament pour pouvoir la transformer. Et c'est ce qui se passe encore de manière tout à fait éclatante dans le baptême. Le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le baptême de Jean, vous le savez, n'avait pas un effet strictement surnaturel. Le baptême de Saint Jean-Baptiste, ce n'est pas le baptême chrétien. Le baptême de Jean ne pouvait pas infuser la grâce et remettre le péché à proprement parler. Non. Saint Jean était par rapport au Christ comme l'élève par rapport à un artisan, par rapport à un maître. Vous savez que dans un atelier d'artisan, il y a un maître qui connaît bien le métier et puis il y a quelques apprentis. C'est le rôle des apprentis, c'est le rôle des artisans inférieurs de préparer le travail du maître. Un peu comme dans les ateliers de peinture. Dans les ateliers de peinture, autrefois, la toile était bien évidemment achevée, terminée, réalisée, peut-on dire, dans ses formes ultimes par le maître. Mais c'était aux élèves de préparer les fonds de couleur, de préparer les grandes taches de couleur, de préparer les toiles. Bon. Eh bien, c'est un peu ce que fait Saint Jean-Baptiste par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Il prépare le peuple juif à entendre la prédication de Jésus. Il prépare le peuple juif à recevoir Jésus-Christ. Sans doute, me direz-vous, mais cette préparation, semble-t-il, n'a pas servi à grand-chose, puisque le peuple juif l'a renié. Ah, pardon. C'est vrai que les princes des prêtres, les sadducéens, les pharisiens ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que les juifs de Jérusalem l'ont condamné à mort. Bon, mais il ne faut pas oublier que tous les apôtres sont bien issus du judaïsme. Les apôtres et les disciples et les saintes femmes, tous les juifs qui ont suivi notre Seigneur, ont été préparés plus ou moins par la prédication de Saint Jean-Baptiste. Donc cette prédication n'était pas vaine, bien au contraire. Et quel a été plus précisément le rôle de Saint Jean-Baptiste? Eh bien, il a été de préparer par l'esprit de pénitence, de préparer à l'esprit de pénitence, de préparer à la doctrine, en donnant déjà une flamme, une sève doctrinale plus pure que celle de l'Ancien Testament. Et puis également, il a commencé à habituer à ce rite du baptême. Notez qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament des rites de purification. Les Juifs, dans de multiples circonstances, utilisaient ce rite de purification de l'eau, en particulier avant les repas, c'est entendu. Mais c'est Saint Jean qui, le premier, développe ce rite du baptême par immersion, le fait de rentrer complètement dans l'eau et d'en renaître. Donc les germes se trouvaient déjà dans l'Ancien Testament, mais c'est Saint Jean-Baptiste qui le porte jusqu'au bout, en lui donnant une signification qui est quand même plus profonde que celle qui existait dans les ablutions de l'Ancien Testament. Et petit à petit, ce baptême de Saint Jean s'efface, et le mystère alors se révèle en toute clarté. Je veux dire que le baptême de Saint Jean va continuer à demeurer même pendant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le remarquerez, vous le savez bien, c'est qu'à un moment donné, d'ailleurs, les disciples de Saint Jean en font une jalousie. Ils viennent se plaindre à Saint Jean parce que notre Seigneur Jésus-Christ baptise et, pour dire les choses de manière un peu simple, eh bien, il prend des clients à Saint Jean-Baptiste. Bon. Eh bien, effectivement, bien que notre Seigneur ne baptisa pas, mais ses apôtres baptisaient. Toujours est-il qu'il y a coexistence de la prédication de Jésus et du baptême de Jésus avec la prédication de Saint Jean-Baptiste et le baptême de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste dit lui-même, il faut qu'il croie, c'est moi que je diminue. Mais les choses ne se font pas d'un seul coup, elles se font petit à petit. Elles se font petit à petit, c'est ainsi que opère la sagesse de Dieu. Voyez-vous. Cette période transitoire est marquée à ce moment-là, cette période transitoire de passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, on pourrait dire que ça se déroule pendant toute la vie de Jésus-Christ, mais plus spécialement pendant le temps où notre Seigneur et Saint Jean-Baptiste ont prêché chacun de leur côté. Saint Jean-Baptiste conduisait au Christ, mais pour conduire au Christ, il devait continuer sa prédication. On voit là d'ailleurs le suprême désintéressement d'un prédicateur qui ne garde absolument rien pour lui, hein, qui conduit tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc tel était le rôle de la prédication et du baptême de Saint Jean-Baptiste, c'était de préparer l'œuvre de Jésus-Christ par la prédication et en développant un rite de purification. Mais ce rite de purification devait être assumé par l'Église, par le Christ et par l'Église, pour en faire le sacrement de baptême. Et comment ce sacrement de baptême a-t-il été fondé? Mais précisément par le baptême du Christ. Et là, c'est un peu difficile à comprendre, je vous demande un peu votre attention. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être baptisé. Pourquoi? C'est un peu curieux, car notre Seigneur, ce baptême était un signe de pénitence. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas besoin de faire pénitence. Christ n'a pas besoin de faire pénitence. Et c'est bien pour cela que Saint Jean-Baptiste lui disait « Mais c'est toi qui dois me baptiser, non pas moi. » En effet, Saint Jean-Baptiste était bien sûr dans la grâce de Dieu depuis la rencontre de la visitation. Mais c'est de notre Seigneur, c'est du Verbe de Dieu qu'il recevait la grâce. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu être baptisé par lui. Pourquoi? Parce que le Christ, en tant que tête de l'Église, fonde en lui-même ce que l'Église accomplit. Le Christ devait fonder en lui-même en tant que tête de l'Église. Le Christ est l'Église. Le Christ est l'Église en plénitude. Eh bien, le Christ devait fonder en lui-même le baptême de l'Église, que l'Église doit accomplir. Et pour ce faire, notre Seigneur Jésus-Christ assume un rite de l'Ancien Testament, car en fait, le rite de Saint Jean-Baptiste prépare le Nouveau Testament, mais il ne donne pas la grâce encore. Donc c'est un rite de l'Ancien Testament. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ assume ici, comme je vous le disais tout à l'heure, le rite de l'Ancien Testament, et il le transforme dans un rite du Nouveau Testament. Par conséquent, il assume le rite du baptême, et il le transforme en sacrement de l'Église. C'est à cet instant que le sacrement de baptême est fondé. Est-ce que c'est à cet instant que notre Seigneur commence à faire baptiser? Il ne semble pas. Peu importe. Est-ce à cet instant que le baptême chrétien a commencé à être développé? Peu importe. La question n'est pas là. Il faut dire simplement que le sacrement de baptême est fondé à partir de cet instant. Il existe. Le sacrement de baptême existe véritablement à partir de ce moment-là. Notre Seigneur Jésus ne l'a peut-être pas promulgué à ce moment-là, mais il n'empêche que le baptême existe. On peut dire que en Jésus-Christ, c'est l'Église qui est baptisée. Le Christ n'a pas besoin d'être baptisé, mais l'Église doit être baptisée dans ses membres. Eh bien, dans ce baptême de Jésus-Christ, c'est l'Église qui est baptisée. Et dans ce baptême qui confère le baptême qui confère le caractère fondamental, le caractère de base du chrétien, le point de départ de la vie chrétienne, c'est le caractère baptismal, bien sûr. Eh bien, dans ce baptême qui est le caractère fondamental, dans ce baptême qui est le commencement de tout l'ordre sacramentel, le baptême est le premier des sacrements, il n'est pas question de recevoir un sacrement sans avoir reçu au préalable le baptême. Eh bien, dans ce baptême qui est donc le commencement de l'ordre sacramentel, est fondé l'ordre liturgique de l'Église. Le commencement de la liturgie, c'est le baptême. Eh bien, la liturgie est fondée dans le baptême de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est normal que par Saint Jean-Baptiste, au moment de la circoncision de Saint Jean-Baptiste, l'ancien sacerdoce, qui était muet, commence à parler. Vous vous souvenez de cet épisode? Saint Zacharie est devenu muet au moment où l'ange lui a annoncé la naissance d'un fils, parce qu'il a refusé de croire à la parole de l'ange. Il est resté muet pendant tout le temps où Saint Jean-Baptiste n'était pas né. Et puis, il commence à parler par le Benedictus, précisément, il commence à chanter le Benedictus au moment de la circoncision de Saint Jean-Baptiste. Et c'est normal. Car l'ancien sacerdoce est muet. L'ancien sacerdoce, ce n'est pas de la liturgie. C'est avant la liturgie, mais ce n'est pas la liturgie du Nouveau Testament. La liturgie de l'Ancien Testament n'a aucune valeur en soi. Donc on peut dire que l'ancien sacerdoce est muet, mystiquement parlant. Mystiquement parlant, spirituellement parlant, on peut dire que la bouche des prêtres de l'Ancien Testament est fermée. Elle commence à s'ouvrir avec Saint Jean-Baptiste. Parce que c'est Saint Jean-Baptiste qui fonde le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, la circoncision de Saint Jean-Baptiste est séparée du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par une trentaine d'années, mais peu importe. Peu importe, la question n'est pas là. Ce n'est pas la succession temporelle qui est importante ici. C'est l'ordre mystique. Et selon cet ordre mystique, le sacerdoce commence à être fondé radicalement, la liturgie commence à être fondée dans l'Église par le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bien pour ça que Saint Jean-Baptiste est cité très souvent dans la Sainte Liturgie. Vous l'avez pu remarquer, on n'y prête pas attention. Mais vous noterez, dans les textes de la messe, Saint Jean-Baptiste est très souvent nommé. Dans le Confiteor, bien sûr, et puis dans l'Offertoire. Il y a d'autres moments, très souvent. Et quand on ne sait pas pourquoi, ça peut sembler un peu curieux. Mais c'est que Saint Jean-Baptiste est au principe de la liturgie dans l'Église. Et c'est pour cela également qu'autrefois, toutes les églises avaient une statue de Saint Jean-Baptiste, qu'on attachait beaucoup d'importance à la dévotion envers Saint Jean-Baptiste, et c'est une chose qui s'est perdue. Hein. C'est une chose qui s'est perdue. Saint Jean-Baptiste est un peu mis de côté maintenant, on l'oublie complètement. Et s'il y avait tant de dévotion envers Saint Jean-Baptiste, il serait bon que cela revienne. Et si toutes les églises ont une statue de Saint Jean-Baptiste, et si, bien évidemment, le baptistère lui est spécialement dédié, et si la cathédrale de Rome, la cathédrale du pape, s'appelle Saint Jean de Latran, dédié à Saint Jean-Baptiste, c'est à cause de ça. Saint Jean-Baptiste est au principe de la liturgie par le fait qu'il a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ. Notez entre parenthèses que ce qui se passe dans le baptême, à savoir le Christ qui assume un rite de l'Ancien Testament pour le transformer dans un rite du Nouveau Testament, c'est également ce qui se passe dans l'institution de l'Eucharistie. Puisque le Christ assume l'ancienne Pâque, le Christ a célébré la Pâque juive, et dans le déroulement même de la Pâque juive, il instaure la nouvelle Pâque. C'est tout à fait prévu, c'est tout à fait normal. L'ancienne Pâque et la nouvelle Pâque sont ainsi je dirais, réunie dans l'institution de la Sainte Eucharistie. Et l'ancienne Pâque disparaît au moment où le Christ réalise l'Eucharistie. C'est la même chose. C'est le même principe. Le Christ assume les lois de l'Ancien Testament pour les transformer dans les lois du Nouveau Testament. On peut ajouter, au moment du baptême de notre Seigneur, que le ciel s'est ouvert et qu'il y a eu une mission du Saint-Esprit, une mission visible du Saint-Esprit, l'apparition d'une colombe, qui est signe de la mission invisible dans la grâce. Le Saint-Esprit nous est envoyé par la grâce, par le baptême. C'est par le baptême que le ciel nous est ouvert, et c'est par le baptême que nous recevons la grâce de Dieu. Donc il est normal que le Saint-Esprit soit envoyé au moment du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, que les cieux s'ouvrent et que la voix du Père puisse être entendue. Nous avons donc ici la manifestation du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la manifestation de la Trinité. Le baptême est donné au nom de la Sainte Trinité, au nom du Père, qui s'est manifesté en parlant par sa voix, au nom du Fils, qui a été baptisé, qui a fondé le baptême en cet instant, et au nom du Saint-Esprit, qui a été envoyé. Et c'est ainsi que notre Seigneur entre dans sa vie publique, à partir de ce baptême, qu'il va commencer à faire des disciples. Il serait trop long et inutile de parcourir tous les événements de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ après le baptême jusqu'à sa passion. Ce qui est plus important, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est d'essayer de considérer différents aspects, disons les événements les plus importants ou différents thèmes fondamentaux de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, sa manière de vivre, qui doit être l'exemple de la manière de vivre du chrétien. Eh bien, d'un côté, le Christ n'est pas de ce monde, il le répète plusieurs fois, je ne suis pas de ce monde, mon royaume n'est pas de ce monde, et de fait, notre Seigneur Jésus-Christ ne vit pas comme les gens du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est évident, encore faut-il le dire, n'a pas de famille, c'est-à-dire qu'il n'est pas père de famille, il n'est pas marié, et il ne s'établit pas dans ce monde par une situation professionnelle. Il parcourt, il est voyageur, il n'a pas de demeure permanente, il n'a pas de pierre où reposer sa tête. Il n'est pas de ce monde. Mais d'un autre côté, il vit dans ce monde. En effet, pour accomplir sa mission, pour prêcher, pour assumer la vie humaine et pour la sauver, je vous disais que le Christ assume ce qu'il sauve, il assume la mort pour nous sauver de la mort, il assume la souffrance pour nous sauver de la souffrance, eh bien, pour assumer cette vie humaine, il doit vivre avec les hommes. Et c'est pourquoi il vit avec les hommes. Et sa vie est semblable à celle des autres hommes de ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Et on lui en fait le reproche d'ailleurs. Il ne croit pas devoir, pour accomplir sa mission, se singulariser et mener une vie d'anachorète. Absolument pas. On lui fait le reproche de manger avec les pêcheurs, autrement dit de s'inviter à dîner chez les pêcheurs. Oui. Eh bien, oui, parce qu'il vit au milieu des hommes. Sans être des hommes. Il se retire, vous voyez, c'est cette coïncidence dans la même personne, de la séparation du monde et en même temps de la vie au milieu du monde. On peut dire que c'est l'exemplaire de toute vie missionnaire. De toute vie missionnaire. Le missionnaire par excellence, celui qui est vraiment le disciple ou l'apôtre de notre Seigneur par excellence, vit séparé du monde. C'est un religieux. Et pourtant il est dans le monde et il vit dans le monde. Ce n'est pas non plus un anachorète. Il est un peu les deux à la fois. Et la synthèse se réalise dans notre Seigneur, et si Jésus-Christ réalise de manière éminente cette synthèse, c'est bien parce que nous autres, nous ne pouvons pas la réaliser pleinement. Il est pratiquement impossible d'avoir simultanément cette vie contemplative, distincte du monde, en marche du monde, et en même temps, l'apostolat qui est dans le monde. Cette coïncidence est très facile à régler en théorie. On peut même produire éventuellement une règle ou des textes législatifs ou des règles religieuses, mais en pratique, c'est autre chose. En pratique, c'est autre chose. Et Jésus-Christ en est l'exemple suprême. La tentation du Christ. Notons, saint Thomas traite de la tentation du Christ juste après ses généralités sur la vie de notre Seigneur. Pourquoi cette tentation du Christ? Cela encore peut nous sembler curieux. Le Christ a voulu assumer la tentation. Oui. Bien sûr, le Christ ne pouvait pas succomber. Le Christ ne pouvait pas ressentir ce que nous ressentons lorsque nous-mêmes nous sommes dans une tentation. Pourquoi ? Eh bien parce que son corps et sa personnalité psychologique est parfaitement ordonnée. Donc son âme gouverne parfaitement le corps. Et tout ce que nous pouvons subir du point de vue des tentations est étranger au Christ. Il n'empêche que le Christ devait connaître le combat. Notre vie est un combat continuel contre le démon. Et combat pour nous d'autant plus difficile que le démon possède une partie de nous-mêmes. Alors cela n'était pas possible en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ était Dieu, et il ne pouvait avoir en lui aucune complaisance. Il ne pouvait y avoir dans le Christ aucune complaisance envers les œuvres du démon, comme malheureusement il y en a en nous. Mais il n'empêche que le Christ devait connaître le combat. Il devait connaître ce que nous devons connaître. Et donc le Christ a connu le combat contre le démon. Donc notre vie qui est un combat continuel, on parle du combat spirituel, du combat chrétien, on dit que la vie du chrétien est un combat, c'est vrai. Hein, mais il faut bien comprendre, c'est un combat contre le diable et contre soi-même, et pas contre les autres. Hein. Il ne faut pas se tromper tout de même. Eh bien, le Christ a connu ce combat. Le Christ a connu ce combat, de manière imminente. Ah, il est bien difficile d'essayer de voir un peu ce qui a pu se passer dans l'âme de notre Seigneur à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas admettre qu'il ait été sollicité intérieurement, comme nous sommes victimes nous-mêmes des tentations. Et n'empêche, il y a eu combat spirituel. Non pas pour se sanctifier, le Christ n'avait pas besoin de se sanctifier, puisqu'il était parfait, plein de grâce, il n'empêche qu'il y avait le combat. Et le combat, selon les trois concupiscences, non que le Christ ait eu la concupiscence, mais il a connu le combat selon les trois concupiscences, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil, et ce qu'on appelle la concupiscence des yeux, c'est-à-dire les richesses. Vous remarquerez que les tentations du démon correspondent aux trois tentations fondamentales que nous subissons. Nos tentations, nos difficultés, reviennent de trois origines. La concupiscence de la chair, l'orgueil, et puis les richesses. Et à ces trois concupiscences correspondent les trois vœux de religion, la chasteté, l'obéissance et la pauvreté. Contre la concupiscence de la chair, il y a le vœu de chasteté, contre la concupiscence de l'orgueil, il y a le vœu d'obéissance, et contre la concupiscence des yeux, c'est-à-dire des richesses, il y a le vœu de pauvreté. Le Christ a été tenté selon ces trois concupiscences fondamentales, à l'exemple du combat que nous devons mener, nous aussi, de par ces trois concupiscences. Cette tentation du Christ se situe historiquement au début du ministère public du Christ. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la tentation, juste après que notre Seigneur ait quitté Nazareth, il se rend au désert. Comme tout prédicateur doit se rendre au désert, comme tout missionnaire doit se rendre au désert avant de prêcher. Vient ensuite sa vie publique, qui commence par le baptême. Et après, et dans cette vie publique, la première chose que fait notre Seigneur, c'est d'enseigner. Et la deuxième chose qu'il fait, ce sont les miracles. L'enseignement du Christ, vous connaissez, je pense, les paraboles, le contenu des prédications du Christ. Mais il n'est bon d'y considérer quelques éléments de cette doctrine sur la manière dont le Christ enseigne. Regardons bien la manière dont le Christ enseigne. On peut constater d'abord que le mystère chrétien, le mystère du Christ, est transmis par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même de manière hiérarchique et ordonnée. C'est-à-dire que notre Seigneur ne prêche pas, il aurait pu par un moyen quelconque, prêcher à l'ensemble des hommes ou prêcher à l'ensemble des Juifs. En fait, notre Seigneur prêche premièrement aux Juifs, premièrement à ses disciples, pardon. Notre Seigneur prêche premièrement à ses disciples. Et ensuite, après ses disciples, aux Juifs. Par ses disciples aux Juifs. Ses disciples vont prêcher les Juifs, vont prêcher aux Juifs. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même distingue l'enseignement qu'il donne à ses apôtres et l'enseignement qu'il donne aux Juifs, et ce n'est pas le même. Et c'est ensuite par les Juifs que la prédication nous viendra à nous. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas prêché en dehors des Juifs. Et les apôtres ont commencé à s'adresser aux Juifs, et puis de par les Juifs, ils se sont adressés au peuple gentil dont nous sommes. Le mystère de Dieu se transmet de manière hiérarchique. Et cet enseignement du Christ a un caractère qui est d'une certaine manière secret. Mais attention, Quand on dit que l'enseignement du Christ était d'une certaine manière secret, ce n'est pas parce que le Christ a prêché dans le secret, a enseigné en cachant sa doctrine. Non pas. Ce n'est pas non plus son intention de donner un enseignement secret, de faire exprès de ne donner son enseignement qu'à quelques-uns. Ce n'est pas non plus parce qu'il ne parlait qu'à peu de personnes. Il réservait certains enseignements à ses disciples, mais il parlait néanmoins à tous les hommes, à tous les juifs qui se présentaient. Mais c'est le fait qu'il enseigne par un langage qui est difficile à comprendre. Sa doctrine est difficile à comprendre et à accepter. D'abord parce qu'elle est exprimée en parabole. Et notre Seigneur prêche en parabole. D'une part parce que c'est plus facile à comprendre d'une certaine manière. La parabole en dit plus, en définitive, qu'un discours scientifique. Bien souvent, l'expérience montre que si vous voulez faire comprendre quelque chose, eh bien, le plus simple souvent, c'est de faire un schéma ou de raconter une histoire. Bon, c'est un artifice pédagogique qui est tout à fait élémentaire. Mais également du fait que ces paraboles, tout en manifestant le mystère de sa doctrine, la cache d'une certaine manière. Il se servait des paraboles pour annoncer des mystères spirituels parce que les hommes n'étaient pas capables et n'étaient pas dignes de les comprendre. Notons-le d'après l'évangile de dimanche dernier, l'évangile de la sexagésime. La parabole du semeur. Quiobes aures audiendi audiat. Celui qui a des oreilles pour entendre. Et c'est à ses apôtres, à ses disciples, qu'il explique la parabole du semeur. Mais il ne l'explique pas aux foules. Pourquoi ? Il transmet une doctrine plus explicite à ses apôtres. Parce qu'eux sont dignes et ils sont aptes à comprendre. Ils sont aptes parce qu'ils sont humbles, justes, dans la grâce, tandis que le peuple, le reste des hommes, n'est pas apte maintenant à le recevoir. Ne comprendrait pas, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Quand notre Seigneur tient le discours sur le pain de vie, la plupart de ses disciples le quittent, parce que c'est trop fort, c'est trop dur, ils ne peuvent pas l'admettre. Notre Seigneur réserve à ses fidèles, à ses apôtres, des doctrines qu'il n'enseigne pas encore à tous, et que ses disciples et ses apôtres auront pour mission d'enseigner graduellement aux autres. Il le dit lui-même, il ne faut pas jeter des perles aux pourceaux. Et c'est comme cela que se propage la doctrine de l'Église. Notons-le bien. Nous ne cherchons pas à cacher la doctrine de l'Église catholique, bien au contraire. Mais de fait, non seulement cette doctrine est refusée, mais plus simplement, elle n'est pas comprise. La plupart des gens qui refusent la doctrine de l'Église ne la connaissent même pas. Est-ce que c'est de notre faute ? Parce que nous refusons, parce que exprès, de manière tout à fait déterminée, nous voulons former un cercle d'initiés qui ne veut pas donner sa doctrine. Certainement pas. Nous ne demandons pas bien que cette doctrine se diffuse. De fait, c'est comme ça. Elle ne se diffuse pas. Ou très mal, ou très peu. Par la mauvaise volonté des hommes, par la fermeture de leur intelligence, la doctrine chrétienne n'est pas, non seulement, est refusée, mais même, n'est pas connue. Rares, très rares sont les gens qui connaissent vraiment la doctrine catholique et qui la refusent. Dans la plupart des cas, ils ne connaissent pas la doctrine catholique. On connaît quelques slogans, quelques caricatures, et puis c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Quand on commence à expliquer, quand une âme de bonne volonté veut bien écouter, veut bien considérer ce qu'est la doctrine catholique, elle la reçoit en général. Cela va ensemble. Celui qui est apte à écouter finit par recevoir. Peut-être pas tout de suite, ça peut prendre un certain temps. Mais il finit par recevoir. Mais celui qui, au fond du cœur, à la mauvaise volonté, refuse d'écouter la doctrine quelle qu'elle est. Il ne l'écoute pas, il ne la reçoit pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'Église. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit qu'il faut être prudent dans la manière d'expliquer les mystères. Parce que si les âmes sont de mauvaise volonté, elles vont comprendre la doctrine de manière caricaturale. Et on caricaturera la doctrine catholique parce qu'on l'aura diffusée de manière imprudente. On l'aurait diffusé de manière imprudente. Et c'est pourquoi les premiers chrétiens étaient très sévères sur la diffusion de la doctrine catholique et sur la participation à la liturgie. Ils estiment que ce n'était pas un goût du secret, mais c'était simplement un respect pour les mystères sacrés. Les mystères sacrés ne doivent pas être divulgués, vous comprenez ? Donc c'est tout à fait autre chose qu'un ésotérisme, je dirais, délibéré. Un ésotérisme délibéré qui consiste précisément à cultiver le secret pour le secret. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais de fait, la doctrine de l'évangile n'est pas comprise. Il n'y a qu'un petit nombre qui la saisit, qui la comprend. Et il est certain que cela change avec... Il y a quelques variations selon les périodes. Il y a des périodes de chrétienté où la doctrine de l'Église était dans nos pays parfaitement largement diffusée. C'est entendu. Mais même dans cette optique-là, vous voyez, il faut dire que les âmes qui sont proches de Dieu comprennent l'évangile de manière beaucoup plus profonde. C'est difficile à exprimer. C'est difficile à exprimer. Mais il est bien clair que de nos jours, comme de tout temps, les âmes ferventes ont saisi dans l'évangile des choses que les âmes tièdes ne peuvent pas saisir. De nos jours, comme autrefois, il y a des mystères de l'Église, des mystères de la doctrine, que l'on comprend, que l'on saisit avec peine, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain temps de vie intérieure et d'approfondissement spirituel. C'est manifeste également dans la Sainte Liturgie. Sans doute, les fidèles catholiques connaissent suffisamment, espérons-le, la liturgie de manière à pouvoir participer au mystère sacré. Mais il n'empêche qu'il y a une foule de choses qu'ils ignorent. Et que ceux qui se livrent à l'étude de la liturgie ne cessent d'en découvrir. Dans les symboles de la liturgie de l'Église, on ne cesse de découvrir des traditions symboliques, on ne cesse de les découvrir. Mais on les découvre non seulement par l'étude théologique, mais bien plus encore par la contemplation. Et c'est ce qui est arrivé pour saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin a donné un traité de l'Eucharistie qui est sublime, mais il l'a donné de par des heures et des heures de contemplation. Il a dit lui-même qu'il a plus appris auprès du tabernacle que dans les livres. Et ce qui est vrai de saint Thomas est vrai de tout chrétien. Il y a des secrets que Dieu veut nous donner au fond de notre cœur. Et c'est à nous d'être attentifs et c'est à nous d'être de bonne volonté. Observons aussi, dans le même ordre d'idées, que le Christ, comme tous les grands maîtres, n'a rien écrit. Il n'avait aucun écrit du Christ. Ses disciples ont écrit. Et encore, disent-ils, que tout n'est pas écrit dans l'Évangile, et qu'il y a une grande part de l'enseignement de notre Seigneur qui n'est pas contenu dans les Évangiles, c'est ce qu'on appelle la tradition. La doctrine du Christ ne peut pas être comprise dans les écrits. Et tous les grands maîtres ont fait ainsi. Les grands maîtres, j'entends, de la science profane. Les grands maîtres de la science profane ont fait ainsi. Socrate n'a rien écrit. On connaît de Socrate ses paroles, ses histoires, mais on n'a aucun écrit de Socrate. Et d'Aristote, on a bien des œuvres, mais les œuvres d'Aristote que l'on a sont en général des notes de cours. Et il semblerait d'ailleurs que ce sont des notes de cours prises par ses élèves. Ça explique d'ailleurs que leur explication pose beaucoup de problèmes, bien souvent. On a beaucoup de mal à savoir ce qu'il veut dire. Certains livres de la métaphysique qui sont particulièrement épineux. Bon. Et s'il est clair, ce sont des œuvres qui ne sont pas rédigées. Ce sont simplement des notes qui ont été prises. Toute proportion gardée, voyez que c'est commun à tous les maîtres. Bien plus encore pour notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et c'est pourquoi la tradition est plus importante que l'Écriture sainte. On ne peut pas comprendre l'Écriture sainte sans la tradition. Ce qui est premier, c'est la tradition. Ce qui a commencé à exister, c'est la tradition. L'Évangile a d'abord été prêché avant d'être écrit, même s'il a été écrit très tôt, c'est entendu. Les premiers Évangiles ont été écrits dans les années 30, quelques années après notre Seigneur, c'est entendu. 30 ou 40. Bon. Mais la prédication a commencé avant. Les apôtres ont commencé à prêcher tout de suite après la Pentecôte, immédiatement. Voyez-vous, la prédication de la Pentecôte commence alors que rien n'est écrit, ni les évangiles, ni les épîtres. La tradition est première, et il en est toujours ainsi. La tradition est première, et elle est plus complète, et c'est elle qui détermine l'Écriture sainte, et non pas l'inverse. Cela est conforme à la sagesse du Christ. Les miracles de notre Seigneur, enfin. On a tendance parfois à considérer les miracles du Christ de manière, disons, spectaculaire. On est attaché à leur côté un peu extraordinaire, ressusciter un mort, rendre la vue à un aveugle-né. Et de fait, c'est effectivement spectaculaire, oui. Mais ce serait réduire les miracles de notre Seigneur de considérer qu'il ne les a fait que pour se faire connaître, comme on dirait aujourd'hui, pour faire de la publicité. Eh bien non, pas du tout. Notre Seigneur a fait des miracles pour confirmer sa doctrine, c'est entendu, pour assurer la vérité de sa doctrine, parce qu'une intervention divine manifeste la vérité de ce qui est enseigné, mais aussi pour montrer la présence de Dieu, pour montrer que Dieu était présent, lui, que Dieu sauve le monde. Les miracles sont le signe du salut. Les miracles sont le signe que l'homme n'est pas abandonné de Dieu et que Dieu commence à opérer au milieu des hommes. Et c'est pourquoi, en plus de l'efficacité physique, il y a aussi une efficacité surnaturelle. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit la plupart du temps, « Va en paix, ta foi t'a sauvé. » Pourquoi ? Eh bien parce que non seulement il y a eu le miracle qui a guéri le corps, mais il y a eu la grâce qui a guéri l'âme. À l'occasion de chaque miracle, notre Seigneur fait appel à la foi et à la conversion. Le miracle est le signe de la conversion. Il n'y a pas seulement le miracle physique, il y a aussi le miracle intérieur de la transformation spirituelle. Et c'est pourquoi les miracles du Christ sont à la fois symboliques et historiques. Je le disais dès le départ, symboliques et historiques. Ils sont historiques parce que c'est effectivement cela qui s'est passé, ce sont des événements historiques. Mais ces événements historiques signifient, symbolisent une réalité spirituelle. Et ce n'est pas dit dans l'Évangile. Ce n'est pas forcément dit, parfois c'est dit dans l'Évangile, mais la plupart du temps, non, ce n'est pas dit dans l'Évangile. C'est à la tradition de nous l'enseigner, c'est au Père de l'Église de nous l'enseigner. Et ça a été toute l'œuvre des Pères de l'Église que d'expliquer le sens symbolique des miracles. Par exemple, le miracle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Oui. Eh bien, ce miracle du fils de la veuve de Naïm est le signe de la résurrection des âmes. Il est une veuve qui pleure son enfant, c'est l'Église. L'Église qui pleure sur les pécheurs qui sont morts et qui sont ressuscités par le Christ. Voilà un exemple. Et ainsi de suite pour tous les autres miracles. On peut noter que ces miracles sont bien sûr de toutes sortes et ils représentent toute l'œuvre du Christ. Ils représentent toute l'œuvre du Christ. Ils sont contre les démons, notre Seigneur chasse les démons. L'œuvre de l'Église, c'est de chasser les démons. Mais aussi la santé de l'homme et la santé spirituelle de l'homme. Santé corporelle et spirituelle, et c'est là encore l'œuvre de l'Église. Et les miracles continuent dans l'Église. Les miracles continuent dans l'Église selon la volonté de Dieu. Les miracles étaient nécessaires au début de l'Église, ils sont moins nécessaires alors que nous avons derrière nous toute l'histoire de l'Église qui manifeste sa divinité. Donc Dieu donne les miracles à l'Église selon l'ordre de sa sagesse. Ce n'est pas forcément selon notre préférence, selon notre tendance, selon ce que nous voudrions. Nous voudrions voir des miracles partout. Il faut se garder de voir des miracles partout, bien sûr. Il faut juger les choses avec prudence et raison. Mais il y a toujours des miracles dans l'Église, pour autant que l'Église en a besoin. Pour autant que l'Église en a besoin. Le dernier miracle, du moins le plus grand miracle de notre Seigneur, mis à part sa résurrection, qui demanderait toute une étude particulière, c'est, vous le savez, sa transfiguration. Qu'est-ce que c'est que ce miracle de la transfiguration? Je terminerai par là. Pourquoi y a-t-il eu ce miracle de la transfiguration? Les pères de l'Église nous disent que notre Seigneur montait vers sa passion. Et ses apôtres allaient se trouver, effectivement, à sa suite, pris dans ces événements de la passion. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ voulait leur montrer, avant la passion, quel était le but ultime. Le but ultime. Le but ultime, c'était la gloire. C'est la gloire. Les apôtres devaient le savoir. Ou du moins, cela devait leur être montré, même si, malheureusement, ils n'ont pas tout compris. Oui, c'est clair. L'attitude des apôtres pendant la passion manifeste bien leur faiblesse. Et manifeste bien qu'ils n'avaient pas compris ce mystère. Ils ne comprendront qu'après la résurrection et encore plus à la Pentecôte. Il n'empêche que notre Seigneur devait leur montrer, avant même sa passion, quel était le terme de sa passion. Et le terme de sa passion, c'est sa gloire. Oui, attention. Si le christianisme, si notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne la croix, s'il n'est pas possible de monter vers le Christ, s'unir au Christ sans s'unir à sa croix, le but n'est pas la croix, le but n'est pas la souffrance. Surtout, il nous faut bien nous garder. Voyez, on passe souvent d'un extrême à l'autre, soit le refus de la croix, le refus de la souffrance, soit alors une espèce de, je dirais, de considération de la croix et de la souffrance pour elle-même, comme si le but de la vie c'était de souffrir. Mais non, Alors, il y a une caricature du christianisme, mais malheureusement, il y a une manière de parler du christianisme et certaines prédications qui en sont un peu responsables. Il y a une caricature du christianisme qui aussi, ça le présentait comme une école de souffrance. Eh bien non, enfin quand même, il y a quelque chose qui répugne à la nature humaine et c'est bien normal. C'est pas possible, Dieu ne nous appelle pas au malheur, enfin quand même. La vie chrétienne, ça ne peut pas être le culte de la souffrance. La croix n'est pas un but en elle-même, et non, bien sûr. Quel est le but? C'est la gloire. Et cette gloire doit déjà être montrée et manifestée avant le commencement des événements. Tout doit être dit avant le déroulement de la passion. Il fallait donc que la gloire fût montrée. Et donc le Christ montre quel est le but ultime de sa vie. Le but ultime de la croix et de la passion qui vont arriver, c'est la gloire. La gloire du Christ et la gloire de l'Église. Car bien sûr, tous les événements du Christ, vous l'ai-je dit, sont les exemplaires des événements de l'Église. Donc le but ultime, c'est la gloire du Christ dans son Église. La gloire, la clarté du corps du Christ, du corps physique du Christ, c'est un instant de la transfiguration, c'est également la gloire de l'Église. Le triomphe de l'Église vers lequel nous marchons tous. Et par conséquent, il est essentiel, quand on considère la vie chrétienne, quand on considère sa propre vie chrétienne, d'avoir toujours en vue la gloire du corps, la gloire de l'Église. Ce n'est pas du tout oublier la croix, bien au contraire. Nous autres latins, depuis quelques siècles, nous sommes extrêmement attachés, et à juste titre, ce n'est pas une critique, nous sommes très attachés au mystère de la croix. Mais parfois, nous en oublions, hélas, car l'homme ne peut pas réaliser la synthèse qui n'existe qu'en Dieu, nous en oublions parfois le mystère de gloire. Les orientaux, au contraire, sont beaucoup plus centrés sur le mystère de gloire. Mais cela ne veut pas dire, certainement pas, qu'ils en oublient la croix et la mortification, bien au contraire. Parce que la croix, je dirais, la croix, c'est le passage de la tiédeur du péché à la renaissance, par la souffrance. D'où la nécessité de la mortification, bien sûr. Mais lorsqu'on est dans la gloire, la mortification est encore plus forte, puisque le corps n'existe plus. Donc en fait, dans la pratique, celui qui vit du mystère de gloire, celui qui insiste davantage sur le mystère de gloire, ne se donne pas une vie plus relâchée, bien au contraire. Mais il en parle peut-être un peu moins. Voyez-vous, quand on lit les Pères d'Orient, la vie des Pères d'Orient, ou leurs textes, leurs œuvres, on voit qu'on parle beaucoup, on parle certainement moins de la croix qu'en Occident, mais la mortification et la vie concrète de la croix est beaucoup plus forte. Vous voyez, on le vit certainement de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intensive. Il est vrai qu'il y a différentes questions de tempérament, de pays, de latitude. Ceux qui ont établi le monachisme en Europe occidentale ont bien compris qu'il n'était pas possible, dans les froids de l'Allemagne, par exemple, d'instaurer les austérités des pères du désert en Égypte. Le climat n'est pas tout à fait le même, et donc il y a des pénitences qu'on ne peut pas se permettre. Mais il est essentiel de bien considérer que toute mortification, toute pénitence, tout amour de la croix, est toujours joint à l'unité dans la gloire. Et ceci est vrai également, ça demanderait tout un développement, dans le saint sacrifice de la messe. Parce que la messe commémore la croix et réalise réellement la croix. Mais elle commémore et elle réalise également la résurrection. C'est ce que dit le Unde et Memores après la consécration, vous voyez. Unde et Memores, on fait mémoire de la passion, de la résurrection, et l'ascension du Christ. Et ces trois choses sont inséparables. En elles-mêmes, elles sont inséparables. Pour nous-mêmes, c'est difficile de les voir ensemble, mais en elles-mêmes, elles sont inséparables. Voyez. Donc, il était bien nécessaire, avant la passion, de déjà montrer le terme qui est la gloire. Cette gloire du corps de notre Seigneur Jésus-Christ représente la gloire que nous aurons au ciel, la gloire que possèdent les bienheureux au ciel déjà, mais pas corporelle, pas encore corporelle, et la gloire que possédera l'Église à la fin des temps. Et c'est pourquoi, là encore, la voix du Père se fait entendre. La voix du celui-ci est mon Fils bien-aimé. Pourquoi la voix du Père se fait-elle entendre à ce moment-là? Parce que nous sommes les fils adoptifs de Dieu. Nous sommes les fils adoptifs de Dieu. Les membres de l'Église sont les fils adoptifs de Dieu. Or, qu'est-ce que c'est que d'être fils adoptif? Être fils adoptif, c'est recevoir l'héritage, un héritage qui ne nous appartient pas. Si donc nous sommes les fils adoptifs de Dieu, c'est que nous recevons l'héritage. Qu'est-ce que c'est que l'héritage de Dieu? C'est le bien de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que le bien de Dieu? C'est la béatitude de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Voilà notre héritage, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu devient notre gloire parce que nous sommes les fils adoptifs. Et donc, à la transfiguration, au moment où la gloire du Christ et de l'Église sont manifestées, il est bien normal que le Père manifeste que Jésus est son fils. Et en conséquence, que nous sommes ses fils adoptifs. Jésus-Christ est fils naturel de Dieu. Il est le Verbe engendré de Dieu de toute éternité. Et nous autres, nous sommes les fils adoptifs de Dieu. Par conséquent, la gloire que le Christ détient en tant que fils de Dieu sera aussi notre gloire parce que nous sommes les fils adoptifs. Et donc, la filiation divine de notre Seigneur est manifestée par la voix du Père, comme elle avait été manifestée au baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, cela avait déjà été dit au moment du baptême. Pourquoi ? Parce que le baptême nous confère la grâce. Et que, en tant que fils adoptif de Dieu, nous recevrons plus tard la gloire, mais nous avons déjà reçu la grâce au baptême. Déjà, le fait d'avoir la grâce, c'est déjà une partie de l'héritage. Le fait d'avoir la grâce, c'est déjà une partie de l'héritage. Et donc, la filiation divine de Jésus-Christ doit être manifestée lorsqu'il instaure le baptême, lorsqu'il nous montre la grâce que nous recevons et lorsqu'il nous montre la gloire que nous recevrons plus tard. Oui. Dans le baptême est manifestée l'adoption dans la grâce et dans la transfiguration est manifestée l'adoption dans la gloire.